Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'Atlas de la biodiversité mis en place récemment sur le Val d'Amboise. L'idée de cet atlas est de faire un inventaire des milieux et des espèces présentes sur nos communes, ce qui nous donne donc l'occasion de réaliser en partenariat avec la communauté de communes du Val d'Amboise une série d'émissions pour partir à la découverte de la biodiversité de notre territoire. Pour cette deuxième émission, je suis en compagnie de Philippe Degnaud par téléphone, qui est président délégué à la transition énergétique et à l'environnement au sein de la communauté de communes du Val d'Amboise. Bonjour.
Bonjour.
Également avec Clément Corollaire, qui est chargé de mission biodiversité au CPIE Val-de-Loire. Bonjour.
Bonjour.
Et également avec Éric Sonceau, chargé de mission biodiversité pour l'association naturaliste d'études et de protection des écosystèmes Caudalis. Bonjour.
Bonjour.
Alors cette émission aujourd'hui est consacrée aux amphibiens, puisque ces derniers jours, vous êtes donc tous les deux sur le territoire, donc le CPIE et Caudalis, pour faire l'inventaire des amphibiens. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Philippe Degnaud, est-ce que vous pouvez nous dire comment avance l'Atlas de la biodiversité sur le territoire? Où est-ce qu'on en est?
Alors, il a déjà débuté, bien sûr, depuis le mois de février. On s'était déjà rencontrés lors d'une émission précédente. On avait abordé le sujet des chiroptères. Dans les inventaires sur les chiroptères sont, pour la période hivernale, on va dire, sont terminés. Et puis maintenant, il y aura une observation sur la période estivale. Donc, je rappelle, les chiroptères, ce sont les chauves-souris. Dans les différents groupes taxonomiques, donc ce qu'on appelle les taxons, c'est-à-dire les groupes différents d'observation, nous sommes en ce moment sur l'observation des amphibiens, si je ne me trompe pas. Peut-être préciser que tous ces inventaires dépendent de la météo, et en ce moment elle est un petit peu capricieuse, hein, des moments de beau temps et puis des moments de pluie et de froid, ce qui ne facilite pas finalement le travail sur le terrain. Donc en ce moment les amphibiens, et puis bientôt donc avec le retour un peu de la chaleur et du printemps, il y aura plusieurs passages donc en mai-juin sur les rapaces et les oiseaux nicheurs. Je pense que Eric et Clément pourront me reprendre si je ne me trompe. Les observations donc se font sur les communes déterminées du premier groupe, là des communes principalement sur le Nord-Loire par rapport à Amboise. Et voilà donc ce que je peux dire très très rapidement pour répondre à votre question.
Eh bien merci. Et une dernière question avant de se quitter et de rentrer vraiment dans le vif du sujet pour parler des amphibiens. Une information à faire passer en ce qui concerne une soirée qui aura lieu autour justement de l'Atlas de la biodiversité à Saint-Ouen-les-Vignes.
Tout à fait. Nous aurons la soirée de présentation de l'Atlas de la biodiversité le 20 mai prochain à Saint-Ouen-les-Vignes de 18h à 22h. Donc c'est une présentation au grand public, mais nous inviterons également nos différents partenaires. À cette occasion, donc, il y aura une présentation un peu technique, mais il y aura également une exposition, il y aura des ateliers pour le jeune public et certainement en fin de soirée un inventaire participatif sur le site naturel des étangs, juste à côté du foyer rural où nous accueillerons donc le public. Et puis sur les 8 et 9 juillet prochains sont prévus également le week-end participatif. Alors sur les communes, on n'a pas tout à fait déterminé, mais on orienterait plutôt sur Noisé et Neuillé. C'est peut-être un peu tôt pour l'annoncer, donc je pense qu'on doit encore y réfléchir donc avec le groupement. Voilà, ce sont les manifestations sur lesquelles nous travaillons actuellement.
Eh bien, parfait, on note donc cette information. Merci beaucoup, Philippe Degnaud.
Je vous en prie, donc à bientôt pour une prochaine émission sur l'Atlas. Voilà, je vous rassure, il est en œuvre, et puis tous les membres du groupement s'affairent et attendent les beaux jours, finalement, pour pouvoir être sur le terrain, ce que nous attendons tous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Pour réaliser cet inventaire sur le territoire, hein, on revient à l'inventaire qui se déroule actuellement avec les amphibiens. Vous avez donc, la CCVA en fait, a mandaté plusieurs associations de protection de l'environnement, dont le CPIE Val-de-Loire qui est avec nous justement sur ce plateau. Clément, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les missions du CPIE Val-de-Loire et quelles sont vos actions?
Alors globalement, on a une mission d'accompagnement des collectivités sur, par exemple, des missions de développement durable, de bonne gestion des eaux pluviales, de bonne gestion des espaces aussi, les espaces qui sont en gestion communale ou intercommunale. On travaille aussi avec le conseil départemental, par exemple, ou la région, sur vraiment toutes ces questions à la fois d'environnement au sens large, donc connaissance de la biodiversité, mais aussi éducation et médiation auprès du public, ce qui est un volet très important. C'est le cœur de notre association. Et puis on a aussi un volet gestion. Donc en fait, on a des gens sur le terrain qui entretiennent les milieux naturels pour justement essayer de conserver des bonnes dynamiques et de favoriser certaines espèces qui sont patrimoniales et qu'on cherche à conserver préférentiellement sur certains sites.
Alors, vous n'êtes pas forcément une association qui est sur le secteur du Val d'Amboise, mais vous intervenez quand même malgré tout grâce à vos compétences.
Oui, c'est ça. En fait, on est basé plutôt sur le sud-ouest du département. Mais compte tenu de l'ampleur de la mission, qui est quand même relativement vaste, un inventaire de biodiversité intercommunale sur 14 communes en 2 ans, ça implique en fait une force de travail importante, et donc on s'est regroupé au sein d'un groupement avec 5 structures, dont le CPE Touraine de Loire fait partie.
Et donc vous, Éric Sanso, vous êtes donc chargé de mission au sein de Codalis. Pareil, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions de l'association et vos actions ?
Codalis, c'est une association départementale qui a été créée il y a 10 ans dans le but d'améliorer les connaissances sur la biodiversité en Indre-et-Loire. Donc aujourd'hui, on réalise beaucoup d'inventaires et de suivis scientifiques sur certaines espèces ou groupes d'espèces. Et depuis quelques années, on anime aussi à l'échelle régionale des plans régionaux d'action sur des groupes d'espèces comme les libellules ou sur certaines espèces particulièrement menacées comme le sonneur à ventre jaune et le lézard des souches.
Vous avez également publié récemment un atlas de répartition des amphibiens et reptiles d'Indre-et-Loire. Vous avez donc une bonne connaissance des amphibiens sur le territoire. On peut redéfinir justement ce qu'est un amphibien ?
Donc les amphibiens sont des vertébrés. Donc comme les oiseaux, comme les reptiles, comme les mammifères, ce sont des vertébrés principalement aquatiques, avec un stade larvaire quasiment exclusivement aquatique, et après un stade un peu plus adulte, avec des espèces qui vont pouvoir sortir de l'eau, ou d'autres qui vont être inféodées un peu plus au milieu aquatique, comme les grenouilles vertes par exemple. Donc en Indre-et-Loire, on a 19 espèces d'amphibiens indigènes. Donc on a d'autres espèces qui peuvent arriver par les départements limitrophes qui ont été introduites. On n'en a pas encore trop en Touraine, mais il y en a qui sont à nos portes. Donc voilà, on a principalement 2 groupes d'amphibiens en France et en région centre. On a ce qu'on appelle les anours, les grenouilles et les crapauds, et les urodèles, qui sont les tritons et les salamandres.
Et ce sont des espèces qui sont particulièrement bonnes indicatrices en fait, de la qualité des milieux, du fait de cette dualité d'habitat qu'elles exploitent. Et vraiment, il y a besoin d'un habitat de qualité au niveau aquatique et au niveau terrestre. Donc quand on les retrouve, ou en tout cas certaines espèces, ça montre que le milieu est encore intéressant. Parfois, quand on ne les trouve pas, justement, ça dénote aussi que le milieu est dégradé. Donc c'est relativement intéressant à suivre. Et le travail d'Atlas, en fait, c'est quelque chose qui se poursuit en continu, qui est actualisé régulièrement, finalement, pour voir aussi un petit peu l'évolution de la répartition des espèces.
Quelles sont leurs caractéristiques, globalement, de ces amphibiens ?
Donc, ils ont souvent une peau très fine, à travers laquelle ils vont pouvoir avoir des échanges gazeux, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il leur faut une peau constamment humide. Sinon, il y a une dessiccation très forte et une mort assez rapide des individus quand ils sortent de l'eau. Ce sont des animaux aux mœurs principalement nocturnes. Même s'il y a quelques espèces qui sont très visibles de jour, la plupart des espèces vont se mettre à être actives plutôt la nuit pour se protéger des prédateurs, donc on va les entendre plutôt la nuit, comme les rainettes, comme le crapaud calamite, comme le pélodite ponctué par exemple. Donc voilà, c'est partie des principales caractéristiques des amphibiens et qu'on associe souvent aux reptiles. Dans le livre, effectivement, c'est un atlas de répartition des amphibiens et des reptiles, mais en termes, ce sont quand même des groupes en termes de phylogénie et même de méthodes de prospection qui sont radicalement différents. Et aujourd'hui, c'est un peu paradoxal de continuer à prospecter en même temps les amphibiens et les reptiles. Donc voilà.
Ouais, c'est vrai que pour les amphibiens, c'est quand même beaucoup des inventaires nocturnes, c'est quand même plus facile. Alors que pour les reptiles, on va plutôt être sur des journées comme un petit peu ce qu'il y avait lundi, mardi, c'est-à-dire que ça commence fraîchement. Et puis après, le soleil les réchauffe doucement. Donc là, c'est le bon moment pour les observer, en fait, parce qu'il y a vraiment ce moment où les espèces se réchauffent. Et c'est plus facile pour nous pour les observer.
Alors, dans quel environnement est-ce qu'ils évoluent ? On l'a un peu compris, mais est-ce qu'on peut le...
Alors, les amphibiens évoluent dans plusieurs grands types de milieux. Donc, on a des espèces qui vont être inféodées au milieu temporaire stagnant.
C'est-à-dire ?
Donc, c'est-à-dire des milieux qui vont pouvoir s'assécher, par exemple, en été. Donc, ça va être souvent des espèces précoces qui vont avoir un stade de reproduction très tôt dans la saison pour que les larves puissent se développer dans un milieu qui reste en eau jusqu'à l'assèchement estival. Et l'avantage de milieux temporaires comme ça, c'est que c'est des milieux qui restent pauvres en prédateurs, et notamment les poissons, qui sont les principaux prédateurs des œufs et des larves d'amphibiens, et même des adultes d'ailleurs. Et donc un milieu temporaire va être un milieu sans poissons, et donc souvent très riche en certaines espèces d'amphibiens qui sont un peu rares et un peu patrimoniales. Après, on peut avoir des amphibiens sur les bords de cours d'eau, comme la Loire ou la Cisse par exemple, ou d'autres rivières. Donc là, on a principalement des grenouilles rieuses, qui est une espèce exogène en région centre, même si on la retrouve nativement en France. Donc c'est une espèce qui a été beaucoup utilisée pour les études scientifiques, pour la dissection dans les universités, pour manger les cuisses de grenouilles aussi. C'est une espèce qui a été un peu introduite un peu de toutes parts. Et aujourd'hui, c'est un groupe d'espèces plus qu'une réelle espèce qui complexifie un petit peu nos recherches sur ce groupe d'amphibiens qu'on appelle les grenouilles vertes, au sens un peu large. On a des espèces comme la salamandre tachetée. Donc c'est cette grosse salamandre très impressionnante, noire et jaune, qu'on retrouve principalement en forêt et qui va pondre ses larves dans des ornières forestières, par exemple, des milieux qui sont temporaires, très pauvres en végétation. Et voilà, la larve va se contenter de vivre sous les feuilles mortes et de se nourrir de quelques larves d'insectes. Et on a tous les tritons qui vont, eux, affectionner plutôt les mares qui peuvent être permanentes, mais très végétalisées, puisque les tritons vont avoir besoin de la végétation pour pondre leurs œufs. Ils vont pondre leurs œufs quasiment un par un en pliant une petite feuille d'une plante aquatique. Et puis voilà, l'œuf va être protégé dans ce petit cocon. Et donc ils ont besoin vraiment de milieux en bonne qualité, avec beaucoup de végétation. Donc encore une fois, très peu de poissons qui peuvent à la fois prédater les tritons, mais également pour des poissons herbivores, manger tout le milieu de ponte et donc ne plus permettre aux tritons de pondre leurs œufs.
Alors est-ce qu'il y a beaucoup du coup d'espèces d'amphibiens ?
À travers le monde ?
Alors non, nationalement peut-être. Après vous les avez répertoriées pour avoir une échelle, un ordre d'idée. Parce que je vous demande ça parce que justement, dans votre atlas, vous en avez répertorié 19 sur le territoire, en Indre-et-Loire.
Donc oui, voilà, donc on en a 19 en Indre-et-Loire, il doit y avoir peut-être 30-35 en France, en France métropolitaine. Donc on n'a pas toutes les espèces de France en région centre, ni en Indre-et-Loire. On est quand même sur un petit territoire, placé assez centralement en France, mais un territoire malgré tout qui fait partie des territoires un peu chauds. Donc il nous manque certaines espèces, on a aussi des espèces qui sont en limite, ce qu'on appelle en limite de distribution, c'est-à-dire que c'est des espèces qu'on peut rencontrer vraiment à la marge de leur répartition nationale, donc je pense notamment au triton alpestre, qui comme son nom ne l'indique pas, ne se rencontre pas que dans les Alpes, donc on l'a dans la moitié nord principalement de la France et on le trouve encore un petit peu en Indre-et-Loire, dans le nord du département.
Là rien qu'entre les inventaires de lundi et mardi, on a réussi à détecter 5 espèces d'amphibiens, sachant que la nuit de mardi est certainement plus propice que la nuit précédente, donc il y a quand même des chances pour qu'on détecte d'autres espèces.
Alors on va rappeler sur quel territoire, sur quelle commune vous êtes en train de faire l'inventaire justement.
Alors nous, CPIE, on est plus spécialement pour l'instant sur Noisey, mais on peut aussi intervenir sur Nazel par exemple, sur Montreuil aussi, sur Neuilly-le-Lierre. En fait, on a une répartition un petit peu des communes selon les membres du groupement pour aussi se répartir le travail. Donc nous, en ce moment, voilà, on est plutôt sur la partie nord et ouest de la communauté de communes.
On va y revenir. Est-ce que vous avez constaté justement une diminution des 19 espèces, par exemple, sur le territoire d'amphibiens ?
On ne constate pas forcément une diminution de toutes les espèces qu'on a sur le territoire. D'ailleurs, au niveau national, il y a certains chiffres qui viennent de sortir très récemment, qui sont liés à des analyses, qui sont les résultats en fait d'analyses nationales, qui sont menées grâce à des protocoles standardisés à l'échelle de la France. Donc on a des espèces qui sont en progression, la grenouille agile par exemple, depuis 10 ans, a colonisé de nouveaux sites, donc c'est une espèce qui se porte bien a priori. Mais on a d'autres espèces qui se portent assez mal, donc des espèces assez rares comme chez nous, comme la grenouille rousse. Par exemple en Indre-et-Loire, la grenouille rousse, qui reste une espèce assez commune à l'échelle nationale, ne se rencontre que sur un seul site, en Touraine, vers la commune de Gizeux, dans le nord-ouest du département. Et à l'échelle nationale, c'est une espèce qui a perdu 50% de ses habitats et de ses populations, même plus que de ses habitats, de ses populations, plus de 50% en 10 ans qui ont disparu.
Comment ça se fait ?
C'est lié principalement à... Donc c'est une espèce assez, assez nordique, donc on a le réchauffement climatique sûrement, et puis la perte des habitats annexes aux zones humides, notamment tout ce qui est haies. Il faut savoir que les amphibiens, on le disait tout à l'heure, donc comme leur nom l'indique, c'est des animaux qui ont deux milieux de vie, si on peut dire, donc un milieu aquatique et un milieu terrestre, et ils ont besoin de corridors écologiques pour se déplacer d'un milieu à l'autre. Et les haies font partie de ces corridors privilégiés par la grenouille rousse, par exemple. Donc la destruction des haies limite la dispersion des individus, et avec ça, leur capacité de reproduction, leur capacité de maintenir des échanges génétiques et un patrimoine génétique complexe. Et donc on a potentiellement une dégradation génétique aussi des populations qui les rend plus fragiles à certains événements. On a aussi des espèces très communes qui disparaissent. Là, ce rapport national a montré que le triton palmé, qui est une espèce qui est le triton le plus commun de France, qu'on retrouve partout, dans tout type de milieu, qu'il soit de bonne qualité ou dans des états très dégradés, a également perdu 50% de ses populations en 10 ans. Et ce qui est assez dramatique, puisque bon, que des espèces rares disparaissent, encore on peut l'entendre, on peut même le comprendre, mais que des espèces communes disparaissent à des taux aussi importants, ça nous rend un peu impuissants à pouvoir combattre ce déclin, quoi.
Alors justement, comment faire peut-être pour protéger ces espèces qui disparaissent ?
On a vraiment un gros problème de gestion des habitats et d'anthropisation en fait au niveau national de tous nos milieux naturels. Donc on parlait de corridors écologiques qui disparaissent là comme les haies tout à l'heure, mais on a également une gestion forestière qui n'est pas forcément adaptée aux amphibiens. On laisse beaucoup moins d'arbres morts par exemple sur nos sols forestiers. Et il faut savoir que les arbres morts sont des refuges favorisés par nombre d'espèces d'amphibiens. On crée aussi beaucoup de réseaux routiers qui fragmentent un peu nos paysages et qui fragmentent aussi les populations. Les amphibiens sont des migrateurs pour rejoindre leur site terrestre hivernal et estival et leur site de reproduction aquatique. Ils sont parfois amenés à parcourir des grandes distances. Et quand on construit une route entre le boisement qui va les accueillir l'hiver, par exemple, et la mare qui va les accueillir au printemps pour se reproduire, on peut avoir deux types de fragmentation en fait, qui est lié vraiment à cet espace de route qui n'est pas forcément adapté à la traversée. Et également, quand c'est des routes qui sont très passantes, de la mortalité directe sur les individus qui va limiter vraiment leur capacité de reproduction. L'arrivée de pathogènes aussi, on a plusieurs virus et champignons exotiques qui sont arrivés en Europe et en France, qui détruisent certaines espèces.
Ouais, puis il y a des rapports qui mettent en avant la disparition de 90% des mares qu'il pouvait y avoir sur le territoire. En fait, les mares, on ne s'en sert plus, il n'y a plus d'usage. Et de fait, de la perte de cet usage, en fait, généralement, elles sont comblées. On retrouve régulièrement des mares qui sont pleines de déchets, en fait. Et forcément, au bout d'un moment, ça se comble, ça se tasse, ça s'assèche. Et les amphibiens n'ont plus ce qu'il faut pour se reproduire. Et c'est aussi bien les mares qu'on peut voir sur des espaces communaux que chez des privés. Et en fait, c'est là où les particuliers, par exemple, ont aussi déjà un levier d'action hyper important. Sur simplement laisser un petit tas de bois dans le fond du jardin, ne pas tailler au cordeau tout le jardin non plus, et puis laisser une mare aussi, créer une mare, c'est possible, notamment même avec la récupération d'eau de pluie par exemple. Et ça permet de favoriser ces espèces, et contrairement à ce qu'on pense, une mare équilibrée où c'est riche en biodiversité ne ramènera pas de moustiques. Il faut aussi un peu arrêter avec ces idées-là. On est quand même pas non plus sur des densités de moustiques énormes. Les mares bien équilibrées restent des écosystèmes qui sont fonctionnels et du coup on peut accueillir des amphibiens dedans, c'est relativement intéressant.
Alors justement, tout l'enjeu de l'inventaire que vous faites, c'est de préconiser en fait, de donner des conseils pour justement préserver, là en l'occurrence, les amphibiens.
Ouais, c'est ça, on part sur l'idée qu'on fait une liste de préconisations, un peu comme des indications à suivre, une boîte à outils en fait pour la collectivité, qui généralement peut être aussi transposée en fait chez les particuliers. Donc ça va aussi bien justement d'une gestion plus raisonnée des bords de route. Tout à l'heure, par exemple, en venant, on a vu un talus couvert d'orchidées. Ça, c'est pas très compliqué de différer un petit peu la fauche. Et on parle des orchidées parce que c'est quelque chose qui parle beaucoup au grand public. Mais il y a d'autres espèces beaucoup plus sensibles, parfois très discrètes, qu'on peut préserver tout simplement en tondant moins ou en tondant moins haut, moins fréquemment, à des périodes différentes. Et ça, c'est une des préconisations parmi un large panel de ce qu'il est possible de faire.
Un autre exemple de conseil, de préconisation ?
Une préconisation qui n'est pas encore beaucoup mise en place sur notre territoire, c'est si on se rend compte que sur un tronçon de route, on a affaire à un gros passage migratoire d'amphibiens, on peut préconiser en fait, de fermer ce tronçon et de proposer un contournement à certaines périodes de l'année. Hein, c'est quelques semaines en fait, par an, ce n'est pas forcément très très lourd et très contraignant, pour justement limiter la destruction directe des individus par la circulation routière.
Alors on va parler à présent donc, de l'inventaire que vous êtes en train de faire en ce moment sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quel endroit est-ce que vous le faites ?
Alors actuellement, nous, CPI, on est en train de les faire sur Nazelle et sur Noiset.
Et Caudalys, aujourd'hui, je vais être sur les communes de Neuilly-le-Lierre, Montreuil-en-Touraine et Saint-Ouen-les-Vignes pour une soirée amphibien et peut-être oiseaux nocturnes aussi, quoi, mais principalement amphibiens.
Alors comment est-ce que ça se passe un inventaire, par exemple, pour le CPIE ? Comment est-ce que vous y prenez, vous ?
Alors souvent, on a repéré nos sites au préalable, en fait, par photographie aérienne, ou aussi parce que, lors d'une présélection des sites qu'il y a pu avoir avec les élus, on nous a dit, bah ici, il y a des mares, il y a des points d'eau qui sont intéressants. Donc on se rend sur site, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on sort de la voiture et qu'on écoute. Parce que justement, il y a des ambiances la nuit qui sont propices, et les amphibiens chantent à ce moment-là, donc il y a certains amphibiens qu'on repère de loin, à l'oreille, et puis on peut aussi aller vraiment au bord de la mare, dans la mare, et éventuellement mettre des coups de troubleau, donc c'est des coups d'épuisette en fait, avec modération pour pas tout déranger, et puis on peut aussi poser des nasses qu'on vient relever le lendemain matin.
Est-ce que vous avez un objectif particulier pour cet inventaire? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites on doit relever tant, on doit faire un inventaire de tant d'espèces? Est-ce que vous avez un objectif particulier ou pas?
C'est pas tant un objectif de tant d'espèces, c'est plutôt par rapport au type de mare qu'on va trouver. Et sur certaines mares prairiales, par exemple, on sait qu'on a tel cortège d'amphibiens qu'on s'attend à retrouver. Il y a certaines espèces beaucoup plus proches de l'homme, par exemple, l'alite accoucheur, on sait qu'on va les retrouver dans les bourgs facilement. Donc là, sur cette espèce-là, par rapport au milieu attendu, on s'attend à avoir un peu un cortège d'espèces type. Et puis, on est toujours surpris quand il y a des choses un petit peu moins communes. C'est aussi pour ça que les inventaires sont faits un petit peu pour avoir une pression homogène sur tous les milieux présents sur la commune.
Alors, pour Caudalys, comment est-ce que ça se passe en ce moment, du coup ?
Donc, en ce moment, ça commence tout juste, puisqu'on a participé aux inventaires chauves-souris début mars, mais entre-temps, on n'a pas fait grand-chose. Donc là, on commence ce soir avec une nuit amphibien donc, sur trois communes. J'ai sélectionné une cinquantaine de ce qu'on appelle des points d'écoute, c'est-à-dire c'est des secteurs, des points en fait précis d'ailleurs, sur lesquels on va s'arrêter pour faire un peu d'écoute. Donc qui sont liés soit aux sites qu'on avait présélectionnés avec les élus en début d'ABC, soit qui sont liés à d'autres sites qui ne sont pas sélectionnés mais qui vont nous permettre d'avoir une vision un peu plus générale du cortège d'amphibiens qu'on peut retrouver sur la commune. Donc là, cette nuit par exemple, j'ai sélectionné quelques milieux temporaires qui vont peut-être nous permettre d'écouter ou d'entendre du pélodite ponctué ou du crapaud calamite. Et on s'attend aussi à entendre de la rainette arboricole, peut-être de la lite accoucheur, j'espère, qui ça reste des espèces assez rares et discrètes sur le territoire.
Alors on va écouter justement le crapaud et calamite, on va écouter son chant. Alors ça, c'est un chant qu'on peut entendre particulièrement la nuit. On a l'habitude de ce genre de chant. Un mot justement sur ce crapaud calamite, sur ses particularités.
Donc le crapaud calamite fait partie des deux gros crapauds qu'on peut trouver en Indre-et-Loire avec le crapaud épineux, ou anciennement crapaud commun, qui est le plus gros crapaud que tout le monde a déjà vu dans sa cave. Le crapaud calamite lui ressemble un petit peu, il est un petit peu plus petit et il a une petite ligne dorsale claire au niveau de la colonne vertébrale. Donc ça fait partie des critères d'identification qui permettent de différencier les deux espèces. Le crapaud calamite, ça va être une espèce vraiment des milieux temporaires, un peu pionniers, mais assez végétalisés quand même. Donc c'est un peu particulier, il y a des milieux vraiment types sur lesquels on s'attend vraiment à la voir, et d'autres milieux sur lesquels on peut être un petit peu surpris. Donc ça peut être aussi des dépressions, par exemple des dépressions prairiales, temporaires, où on peut les entendre. Et après, dans les milieux un peu typiques, ça peut être une carrière de falin, par exemple. Il n'y a vraiment aucune végétation, il y a juste un trou d'eau, et lui, ça lui convient quand même pour se reproduire.
On va continuer avec un chant aussi, celui de la rainette verte. Là aussi, des chants, assez familiers.
Donc là, il y a deux espèces en réalité. Ah. La rainette verte, c'est un peu le bruit de fond qu'on entend. Et on entend cette espèce de ricanement au premier plan qui est la grenouille rieuse.
D'accord.
Dont on parlait tout à l'heure. Et donc, on comprend maintenant bien pourquoi on l'appelle rieuse.
Qu'est-ce que vous avez constaté depuis, hier, depuis ces quelques jours ici sur le Val d'Amboise par rapport à votre inventaire ? Alors, c'est un peu trop tôt, je ne sais pas.
Alors, on n'a pas fini pour l'instant. Ouais. C'est pour ça qu'on va y retourner. Tous les amphibiens ne se reproduisent pas à la même période non plus. Ce qu'on a constaté, moi, j'avais repéré un peu plus tôt dans la saison des dépressions, en fait, qu'on appelle des boires à côté de la Loire, donc des mares, des grandes mares. Et là, elles ont été un peu privatisées par des sangliers, qui sont certainement assez nombreux dans le secteur. Donc, l'eau est trouble, les berges sont un peu défoncées. Donc, forcément, là, on révise un peu nos plans. On s'attendait à avoir, par exemple, des tritons qu'on n'a pas. Par contre, on a eu la bonne surprise de voir quelques dépressions humides qui étaient à fort potentiel, justement. Et ça peut se confirmer par des écoutes nocturnes, justement, en arrivant. Et tiens, voilà, on a des chorus, donc c'est-à-dire plusieurs individus qui chantent en même temps. Et notamment, les rainettes et les calamites sont assez forts pour ça. Et on les repère parfois à des centaines de mètres, en fait.
Alors, pour terminer cette émission, une dernière question. Du coup, j'imagine que pour vous, en tant que naturaliste, il est essentiel qu'un atlas de la biodiversité soit fait sur le territoire. Parce que est-ce que quand on connaît mieux les espèces ou mieux son environnement, on le protège mieux?
Alors oui, c'est possible de le protéger. Surtout que là, nos interlocuteurs, c'est des collectivités qui ont un pouvoir d'agir et qui ont aussi un pouvoir de faire de la médiation et de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'une mare intéressante, une prairie intéressante peut être un petit peu valorisée. Ça peut servir de site d'animation. On peut aussi emmener des enfants, par exemple, en écoute sur ces milieux-là. Donc c'est aussi un moyen, en fait, nous on donne les clés de la connaissance globale sur la commune, Et nous, on est vraiment le départ, en fait, le déclic qui ensuite permet aux habitants, surtout, de s'approprier ces thématiques-là et pourquoi pas, après, de mettre en œuvre chez eux des actions, de proposer aussi des choses et d'être force de proposition auprès des collectivités qui auraient déjà pu mettre des choses en place aussi.
Alors l'enjeu, il est vraiment aussi au sein des collectivités, hein, quand même.
Oui, c'est vrai que parce qu'elles ont cette capacité d'agir, elles ont les moyens, elles ont des terrains, en fait, c'est possible de faire parfois de la gestion et justement, elles ont aussi des engins qui ne sont pas forcément à la disposition des particuliers. Donc en fait, elles peuvent déjà mettre en place des choses et notamment replanter des haies, par exemple, recréer des mares et favoriser les connexions écologiques, les fameux corridors écologiques qui sont si importants pour le brassage génétique et pour la bonne dispersion de la biodiversité sur le territoire.
Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, Eric, pour Codalis?
Non, enfin, on est vraiment très satisfait de la manière dont ça s'organise avec la communauté de communes du Val d'Amboise. On a vraiment des élus qui sont très motivés pour nous aider, parce que c'est pas toujours simple de pénétrer sur des propriétés privées, par exemple. Donc, on a eu à la fois des sites communaux qui nous ont été remontés dans notre premier travail de discussion, et puis également des sites privés. Et donc, voilà, il y a un gros travail de médiation de la collectivité à ce sujet. Pour l'instant, on est bien accueillis, je trouve, et je pense que au-delà des découvertes en biodiversité, je pense que derrière, c'est aussi une aventure un peu humaine sur des rencontres et des futurs projets à mener ensemble. Et donc voilà, c'est que du...
Oui, ils sont moteurs, ils sont curieux. Curieux, ils nous demandent régulièrement des nouvelles, des points d'étape sur les découvertes qu'il y a. Donc on sent que c'est leur projet, c'est un projet de territoire. Mmh. Et c'est assez agréable de voir qu'il y a déjà une appropriation des enjeux de ce projet-là.
Eh bien, merci beaucoup Clément Corollaire, chargé de mission biodiversité OCPIE Val-de-Loire, d'être venu donc nous parler de l'Atlas de la biodiversité ici sur le territoire et sur l'inventaire que vous êtes en train de réaliser. Merci également Éric Sansot, chargé de mission biodiversité pour l'association naturaliste d'études et de protection des écosystèmes Codalis, d'être venu aussi nous parler de votre inventaire et puis des amphibiens ici sur ce plateau. Merci également à Philippe Degnaud qui est avec nous par téléphone, président délégué à la transition énergétique et à l'environnement au sein de la communauté de communes du Val d'Amboise. Et vous pouvez bien entendu réécouter cette émission en podcast sur le site de Radioactive sur le www.radioactivefm.fr. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission consacrée à l'Atlas de la biodiversité mis en place sur le territoire du Val d'Amboise. Merci également à David Marion qui était à la technique.